Mode d'emploi, l'émission hebdomadaire d'AC, agir ensemble contre le chômage. Sur FPP, fréquence Paris pluriel, 106.3 MHz, à 20h30, tous les vendredis.
Bonsoir, bonsoir à tous. Vous êtes toujours sur FPP dans l'émission Mode d'emploi. L'émission Mode d'emploi, c'est l'émission d'agir ensemble contre le chômage. Ce soir, nous recevons Jacques Cotta pour son livre 7 millions de travailleurs pauvres, la face cachée des temps modernes, une descente dans la France de la précarité et du chômage. Il nous en parlera tout à l'heure. Bonsoir.
Bonsoir.
Et puis nous parlerons avec Christophe des 35 heures et nous attendons un coup de fil de Michel Rousseau d'AC qui doit nous appeler de Vienne. C'est une journée de soutien à Jean-Émile Sanchez qui passe au tribunal après avoir récupéré quelques yaourts dans une usine Danone pour les distribuer dans des quartiers populaires. Et c'était une action symbolique pour protester contre l'augmentation des prix, évidemment, des denrées alimentaires. En attendant son coup de fil, Christophe, tu as une annonce à nous faire ?
Oui, eh bien, AC 1920, AC donc 19e et 20e arrondissement et AC en général organise une journée de manifestation. Vous savez, c'est une réunion mensuelle que nous faisons en ce qui concerne le contrôle des radiations et des sanctions. Donc le prochain rendez-vous est fixé au mardi 31 octobre à midi, le jour de la publication bien sûr des chiffres, rassemblement pour le libre choix de son emploi et de sa formation face aux directions départementales du travail à Paris au 210 quai de GEMAP, métro Jaurès. Donc le mardi 31 octobre, rassemblement contre les contrôles et les radiations à l'initiative d'AC à 12h face à la direction départementale du travail à Paris au 210 quai de GEMAP, métro Jaurès. Venez nombreux parce que cette manifestation symbolique fait que nous existons et que la voix des chômeurs et des précaires doit aussi s'entendre dans le débat démocratique de notre pays.
Voilà, merci Christophe. Et puis il s'agit aussi de donner les vrais chiffres du chômage, c'est-à-dire le nombre de radiations bien sûr, et puis le nombre de RMistes au passage, puisque vous n'êtes pas sans savoir que les chiffres du chômage sont un outil politique et qu'ils sont donc revus constamment à la baisse. Christophe, tu voulais nous parler de la remise en question des 35 heures au cas où très certainement Nicolas Sarkozy serait président dans quelques mois.
Oui, dans cette hypothèse, les grands débats d'actualité de l'UMP commencent à faire surface dans cette logique électorale, ce qui est de bonne guerre, sauf que là, il y a une montée au front contre les 35 heures. En effet, tout d'abord, rappelons que c'est le MEDEF qui réclame l'abrogation des lois Aubry. L'UMP souhaite légiférer pour maintenir les 39 heures dans l'hôtellerie, au mépris des promesses donc, de Jacques Chirac sur la notion de dialogue social. En effet, le MEDEF décide de passer en force et il ne se gambre pas pour le dire. C'est une déclaration sans détour. La présidente de l'organisation patronale, quant à elle, Laurence Parisot, a lancé ce cri du cœur vendredi dernier sur RTL avant d'aller encore plus loin samedi sur Europe 1. Ce qu'il faut faire, c'est abroger le concept de durée légale du travail. Donc on revient à l'idée du 19e siècle où les gens n'ont pas le droit. Ça, c'est quand même un peu étonnant dans un pays où il y a une constitution française qui quand même précise les règles et les devoirs que doivent respecter chacun. Donc, et l'idée dogmatique qui sous-entend ceci, c'est de libéraliser. Donc, pour ce faire, Nicolas Sarkozy, ministre d'État UMP, a expliqué tout d'abord que les 35 heures ont été une faute considérable. Et par là même, il préconise de libéraliser donc les heures supplémentaires qui seraient comme on ouvrirait un compte monétarisé de compte épargne sur les heures faites supplémentaires et ça pourrait être soit reversé en termes d'argent, soit ça serait de l'épargne et là on est dans l'idée des fonds de pension.
Alors tu veux dire concrètement, moi si je travaille plus, on va dire en heures supplémentaires, je n'envoie pas la couleur à la fin du mois, mais par contre j'ai éventuellement une cassette virtuelle ou hypothétique qui m'attend sous forme de compte ouvert, je sais pas, pour ma retraite ou pour d'autres choses.
Alors c'est effectivement une des piste qui est envisagée dans ce projet, sachant que ce qui n'est pas normal, c'est que les heures supplémentaires qui sont donc un surcoût de pénibilité et de temps pris sur le salarié seraient détaxées. Donc là, on est vraiment dans une incitation à travailler plus. Et c'est une forme d'enterrement de première classe de la loi des 35 heures. Parallèlement à ça, le MEDEF, lui, n'a pas hésité à réclamer une intervention du législateur, qui s'est donc empressé lui-même de voler au secours de cette principale organisation patronale, notamment en ce qui concerne l'hôtellerie et restauration, puisque le Conseil d'État a récemment validé un accord qui n'est pas du tout à l'avantage du patronat, qui était donc de payer les heures supplémentaires faites dans le cadre de l'hôtellerie et restauration, notamment les gens qui étaient encore aux 39 heures.
Voilà, et c'était une décision qui était rétroactive.
Oui, donc
il fallait payer depuis quelques temps.
Quelques temps. Ce qui était intéressant, c'est que Bernard Accoyer, président donc du groupe UMP à l'Assemblée nationale, donc dans le cadre législatif, est tellement pressé de ne pas ouvrir le débat sur ce sujet qu'il a décidé, dans le cadre d'une loi sur la sécurité sociale, de faire un amendement qui ferait que l'idée de remettre en cause les 35 heures par l'intermédiaire des heures supplémentaires soit appliquée. Ce qui est une aberration, c'est-à-dire qu'on va retrouver un amendement dans une loi sur le travail social et la sécurité sociale directement.
Qui concerne les 35 heures.
35
en fait.
Heures et le code du travail. Donc on voit bien la logique. Donc en résumé, par rapport à ce nouveau passage, les syndicats réagissent assez vivement. Tout d'abord, la CGT et la CFDT ont jugé scandaleuse cette intervention. Elle dénigre le Conseil d'État et le dialogue social prôné par le président de la République. C'est insurgé Stéphane Fustec pour la CGT du commerce, tandis que Johnny Ramos pour la CFDT des services a accusé l'UMP de faire le contraire de ce qu'annonce Jacques Chirac sur le dialogue social, je cite. Donc, on est dans une logique ultra-libérale qui est dogmatique, qui est, les Français sont des feignants, ils travaillent pas assez et ils ne rapportent pas assez d'argent pour le patronat.
Merci Christophe. On se retrouve après une petite pause musicale avec notre invité. C'était Joran, c'était, vous êtes toujours sur FPP dans l'émission Mode d'emploi, l'émission d'Agir ensemble contre le chômage. Nous recevons Jacques Cotta pour nous parler de son livre 7 millions de travailleurs pauvres, la face cachée des temps modernes. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, première question, en France on a plutôt l'habitude de parler des 3 à 4 millions de chômeurs, mais très peu des travailleurs pauvres. Alors pourquoi ce chiffre 7 millions
Si vous voulez, d'abord, avant de venir aux 7 millions, je rebondir sur les 3 à 4 millions de chômeurs, parce que même 3 à 4 millions de chômeurs, comme vous le disiez tout à l'heure en introduction de l'émission, les chiffres du chômage, c'est une arme politique. Donc quand on nous dit 3 à 4 millions, en gros, on ne dit jamais sur quoi ça s'appuie. En réalité, on se rend compte que ça ne veut pas dire grand-chose. Partons du chômage, par exemple, avant de venir aux millions de travailleurs pauvres. Si on prend le chômage, on nous dit en gros 2,5 millions, 3 millions. Bon, toutes les organisations syndicales et les associations, vous êtes bien placés pour le savoir, mieux que moi en tous les cas, s'accordent pour dire qu'il y a en gros 4 à 5 millions de personnes qui sont en demande de travail, donc qui sont radiées ou pas des listes de la NPE, mais qui en tous les cas devraient faire partie de ces bataillons de chômeurs. Et on nous dit en même temps 8 à 10%. C'est une imbécilité, 8 à 10%. Pourquoi ? Parce qu'on compare le nombre de chômeurs à la population globale, donc aux enfants qui viennent de naître. Bon, c'est une grosse imbécilité. En réalité, si on compare le nombre de chômeurs au nombre de personnes susceptibles d'être mis au chômage du jour au lendemain, on prend 25-26 millions, on vire de là ceux qui font partie de la fonction publique, qui ont encore, pour quelque temps, la garantie de l'emploi, on est à 21-22 millions, eh bien, ça nous met, en gros, à 22-23% de taux de chômage, et non pas à 8 ou 10. Alors, venons-en, vous allez voir. En gros, la question du nombre de travailleurs pauvres, c'est aussi une arme politique. Ça gêne tout le monde, ils font tous semblant de découvrir. Mais en gros, c'est quoi le critère ? Vous prenez le critère français, c'est 50% du salaire médian pour le définir, en gros 600 et quelques euros. Bon, le critère européen, 60%. Eh bien, si on prend ce critère européen, pour une fois, adaptons-nous, prenons le critère européen, eh bien, ça nous met en gros à plus de 7 millions de personnes qui sont en dessous de ce seuil de pauvreté. Et si on prend 843 euros, c'est pas énorme 843 euros, hein. Bon, on va pas dire qu'on est richissime avec ça si on touche ça par mois. Si on prend 843 euros, on n'est plus à 7, on est à 12 millions de personnes. C'est ça la réalité sociale de notre pays.
Oui, alors donc on a bien compris en vous entendant que la précarité touchait tout le monde pratiquement et qu'on était tous plus ou moins concernés. Ouais. Alors vous-même, vous pouvez nous raconter comment vous avez eu l'idée d'écrire ce livre.
Bien, si vous voulez, moi c'est un peu l'histoire d'un hasard. Je suis dans une laverie automatique dans le 18e arrondissement de Paris, là où je vis. Et puis il y a une clocharde qui rentre dans la laverie. Bon, il y a aucun doute, c'est une clocharde. Elle crée le vide un peu autour d'elle. Je vais la voir parce que j'ai mon téléphone portable. Il pleut dehors, il fait froid. Bon, puis je dis à cette femme, est-ce que vous voulez que j'appelle le SAMU social. Elle m'envoie balader, mais alors en deux temps, trois mouvements, je comprends que pour ma tranquillité, il vaut mieux que je passe à ma couette. Donc je retourne vers la machine à laver qui tourne, et puis là, il y a un type qui vient vers moi, je le vois pas venir, il me tape sur l'épaule, je me retourne, et il est habillé comme vous et moi. Il a une parka sur le dos, il est vraiment équipé, et il me dit, dites-moi monsieur, pour moi, est-ce que vous pourriez appeler le SAMU social? Et moi, j'ai le sentiment, sur le moment, très franchement, que ce type se fout de moi, parce que je suis à milieu de me dire, vu l'allure qui est la sienne, qu'il veut le SAMU social. Or, en réalité, je vais appeler une fois, ça sonne occupé. Visiblement, j'ai affaire à quelqu'un qui connaît bien la chose, puisqu'il me dit, vous savez, il faut rappeler, parce qu'ils sont très occupés en ce moment avec le temps qu'il fait et tout, donc je rappelle. Et puis, le SAMU social viendra 3 heures plus tard. Entre-temps, on va boire un café ensemble, et il me raconte son histoire. Bah, son histoire, elle est simple. Son histoire, c'est celle des 7 millions, des 12 millions dont on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire que c'est un type qui a eu un travail, qui s'est fait virer parce que rétrécissement du nombre d'emplois, parce que dégraissage, etc. Bref, il va de petit boulot en petit boulot. Lorsqu'il a les moyens, il fait des hôtels en périphérie parisienne ou dans les quartiers populaires de Paris. Mais c'est quand même de 25 à 35, 40 euros la nuit. Alors quand arrive le 15 du mois, il peut plus. Et donc quand il peut plus, eh ben s'il fait beau, c'est les jardins lorsque la police ne vient pas l'évacuer parce qu'on n'a pas le droit. Mais s'il fait pas beau, comme c'est le cas, eh ben, il cherche une association. Et là, c'est le SAMU social. Et donc, je décide, à partir de là, de me dire, je décide de me dire, en fait, que mis à part les gens qui vivent ça, et qui vivent là-dedans, qui savent, je veux dire, vous, je pense, vous êtes pas surpris par ce que je vous raconte, hein. Ça même, je pense, pour les auditeurs, un côté, ils doivent se dire, mais c'est qui ce mec qui débarque et tout, puis qui découvre un type qui veut aller. Donc, attendez, je découvre pas trop parce que je suis journaliste, je sais, mais ça me semble intéressant, moi, de faire découvrir. Et donc, je me dis, il faut aller sur le terrain, il faut aller voir, il faut aller à leur rencontre, là où ils sont, pour dire clairement que cette armée est autour de nous et qu'on ne la voit pas parce qu'on ne veut pas la voir. Mais quand on prend le métro, ils sont là, ils sont sur le quai. Quand on est dans la rue, ils sont là. Quand il fait froid dehors et qu'ils sont dehors et qu'ils traînent, ils sont là. Bref, ils sont autour de nous, mais on ne les voit pas ou on ne veut pas les voir, il est temps d'en parler.
Alors, vous avez commencé votre enquête dans un foyer parisien, donc vous avez eu le nom, et vous l'avez commencé précisément au deuxième étage, là où on trouve les travailleurs qui sont sans domicile fixe.
Ouais.
Et c'est le point de départ, effectivement, de trajectoires de vie qui sont hallucinantes, puisqu'on découvre des gens de tous milieux, et notamment des cadres, donc qui sont une population nouvelle, qui, à la suite d'accidents professionnels, se retrouvent dans cette situation. Vous n'avez pas pris ce lieu par hasard. Vous nous disiez hors micro que finalement vous avez d'abord essayé de vous centrer sur les besoins primordiaux de cette nouvelle population. Je rappelle que, et d'ailleurs c'est un chiffre que vous donnez dans votre livre, un tiers des SDF ont aujourd'hui des gens qui travaillent.
Oui, absolument. Alors si vous voulez, en effet, cette pauvreté elle est monétaire, mais ce qui peut la définir d'abord et avant tout, c'est la capacité qu'on a ou pas à assumer ses besoins élémentaires. Et les besoins élémentaires, c'est quoi? On le sait tous, hein, c'est avoir un toit, c'est-à-dire se loger, c'est pouvoir se nourrir, c'est pouvoir se soigner, c'est élever ses mômes quand on en a, c'est pouvoir se cultiver un minimum, c'est pouvoir se distraire, enfin bref, ça fait partie des besoins élémentaires. Et se loger, c'est sans doute le premier. Donc si je suis allé dans ce foyer, il y a une raison, c'est vrai qu'il y a 3 étages, c'est un des plus grands foyers d'Europe d'accueil, il est dans le 13e, les gens qui y sont remarquables. C'est vrai qu'au point de départ, et je les comprends tout à fait, hein, je vais vous dire, hein, avoir un journaliste dans les lieux et tout, c'est pas leur truc et tout, mais je les comprends en plus. Hein, parce qu'en plus, je connais bien ma profession et ils ont raison de se méfier, quoi. Donc je les comprends, mais en même temps, moi, j'avais envie de le faire, ils savent pas exactement ce que je veux faire, donc chacun fait son job. Donc c'est vrai que j'y suis rentré sans dire exactement qui j'étais, j'y suis resté un certain temps, jusqu'au moment où je me suis dit qu'il fallait franchir le pas et donc sympathiser avec quelqu'un pour pouvoir quand même lier connaissance. Et là, je tombe sur Jean, au deuxième étage. Et pourquoi le deuxième étage? Parce que si vous voulez, tout est très réparti. Au premier, les types qui sont là, ils sont complètement cassés. C'est-à-dire que, bon, là, ils bossent pas, là, c'est clair. Bon, sans commentaire, ils sont cassés, ils sont brisés. Au dernier étage, au deuxième, ce sont des types qui sont plutôt jeunes, on est moitié dans le boulot, dans la délinquance, dans l'agitation, enfin bref. Et au milieu, c'est à la fois un mélange de tout ça. Et au milieu, j'ai été sidéré parce qu'au bout de plusieurs nuits, je me suis rendu compte que vous avez des types qui arrivent là à 5 heures du soir, harassés de fatigue. Ils vont voir la bonne femme qui est à l'accueil et puis ils lui disent qui fait elle aussi un boulot absolument remarquable, qui donne serviettes et tout pour la douche le matin. Ils disent à cette femme, est-ce que vous pourriez moi me cocher, ce serait 5h30 demain matin, ou 6h demain matin, ou 7h, ou 5h, ou 4h. Et en fait, vous avez là une population de gens dans une promiscuité incroyable entre ceux qui sont brisés et puis ceux qui viennent là le soir parce qu'ils savent pas où aller, qui le lendemain matin vont embaucher, vont prendre un métro ou un RER, donc demandent à être réveillés. Et c'est là que j'ai noué mes premiers contacts. Là où vous avez raison, ça qui est incroyable, c'est qu'il faut sauter de la tête l'idée selon laquelle ces travailleurs pauvres, ce sont des gens complètement à la ramasse, qui savent plus où ils sont, qui sont complètement éméchés, pas du tout. Vous avez des gens de toutes les catégories. Vous avez toutes les histoires, toutes les tranches de vie possibles et imaginables. Je suis tombé sur un enseignant qui revenait du Canada, le type pour une histoire familiale, il est revenu, il se retrouve dans cette situation parce qu'il peut pas se recycler, parce qu'il n'y arrive plus. Je suis tombé sur un ancien patron de boucherie, il avait 4 boucheries dans le Nord. Ce type aujourd'hui, il embauche dans la banlieue parisienne et il découpe en gros pour un patron, il touche 850 € par mois. Je suis tombé sur un ancien décorateur, sur un ancien informaticien, sur un ancien agent d'assurance, c'était génial lui. L'agent d'assurance, il avait fait le boom sur les fonds de pension. Il croyait que c'était arrivé. Alors, il avait recruté des jeunes qui avaient les dents longues. Donc, plus les contrats rentraient, plus l'argent rentrait, plus les commissions rentraient. Jusqu'au jour où c'est plus rentré du tout. Parce que son entreprise à Paris demandait des contrats de plus en plus importants. Il n'a pas pu assurer, il s'est fait virer. Et quand il s'est fait virer, sa maîtresse l'a oublié. Sa femme, avec son gosse, est partie aux Antilles dans la famille parce que c'était plus vivable. Et lui, il se retrouve dans un foyer. Vous voyez, des tranches de vie comme ça, vous les avez. C'est-à-dire que ce sont des gens de toute catégorie, de toute profession qui, à un moment donné, peuvent plonger.
Alors, on est dans les caractéristiques de l'exclusion, c'est-à-dire la rupture familiale, la précarité. Mais moi, j'ai un petit peu envie de revenir avec vous, parce que dans les différentes interviews que vous aviez fait récemment sur votre ouvrage, vous disiez que c'est un peu les conséquences des politiques publiques et européennes. Est-ce que vous pourriez préciser par rapport à ça? Parce que 12 millions de travailleurs pauvres, c'est pas venu comme ça du jour au lendemain et c'est pas le fruit du hasard.
Ah ouais, c'est même, à mon avis, c'est même complètement voulu. Puis, je vais même vous dire ce que je crois, c'est qu'au train où ça va, c'est les 12 vont devenir 15 assez vite et on va à la catastrophe totale. Parce que comme vous le dites, moi je suis... Alors je pense que c'est absolu. Voilà, il y a deux options. Soit on considère que sont pauvres ceux qui sont incapables d'être riches. En gros, c'est une bande de fainéants, c'est une bande d'abrutis, c'est une bande d'incapables. Hein. Ça, c'est l'idéologie dominante. Ils auraient que ce qu'ils méritent. Soit on considère qu'effectivement, c'est le produit d'une politique et d'une volonté. Moi, c'est ce que je crois. Alors, cette politique, cette volonté, on peut la décrire, si vous voulez. Prenez les 10 dernières années. Le travail intérimaire a augmenté de 130%. Les contrats à durée déterminée de 60%, les contrats à durée indéterminée de 2%. C'est-à-dire que cette précarité qui produit l'incertitude du lendemain et qui produit la pauvreté, elle tombe pas du ciel, elle est voulue. Prenez les 25 dernières années. La part dans la richesse créée qui a été ôtée au travail, qui est allée au capital, est de plus de 12%. C'est-à-dire que le salaire n'a pas augmenté, la pauvreté a augmenté, elle. C'est une évidence, c'est voulu, c'est déterminé. Si vous prenez d'autres éléments, à mon avis, c'est tout aussi net. Par exemple, Jacques Chirac, dans sa conférence de rentrée en face d'El Kabbach sur Europe 1, une radio concurrente, on peut le dire. Hein.
Nous n'avons pas de concurrents.
Bon, tout va bien. Bon, Jacques Chirac sur Europe 1 a déclaré « Tout va bien en France, puisque nous sommes en train de respecter les critères des 3% de Maastricht, de déficit public. » Mais personne ne lui dit, El Kabbach ne lui dit pas, et pour cause, que ça a des conséquences. Si on considère qu'il faut respecter Maastricht et les accords européens, alors il faut dire que pour les respecter, il faut liquider un peu plus les services publics, il faut liquider un peu plus ceux qui participent de la redistribution sociale pour ces plus faibles, c'est-à-dire pour ceux qui déjà sont dans la pauvreté. Et si on supprime un peu plus ça, parce qu'on ratifie les directives européennes, si on supprime un peu plus ça, ça veut dire qu'on augmente un peu plus la pauvreté en question. Si vous voulez, il y a un élément, je veux pas être trop long, vous me dites, hein, Il y a un élément qui, moi, me semble intéressant. On est en train aujourd'hui de parler des banlieues. Hein. On nous balance les bus qui brûlent. À tel point d'ailleurs qu'à force de les balancer, il va falloir continuer à brûler, parce que sinon il n'y a plus d'informations. On se demande qui est en train d'entraîner quoi dans cette histoire. Hein. Bon, eh bien, les bus qui brûlent, il faut se rendre compte d'une chose, c'est que on est dans des quartiers. Moi, j'y suis allé pour mon bouquin. Je suis allé dans des quartiers où c'est pas la carte scolaire qui est en discussion, c'est la carte sociale. Vous avez des gosses qui n'ont jamais vu leurs parents pouvoir se lever pour aller travailler. Vous avez des endroits où il y a plus de 60% de taux de chômage dans les cités. Et dans ces endroits-là, eh bien, on est en train de constater que les bureaux de poste ferment parce que c'est l'application des directives. Privatisation. On est en train de constater que le téléphone qui a été libéralisé, qui a été privatisé, France Télécom, on se rend compte qu'aujourd'hui, aujourd'hui, certes, les communications, le prix des communications diminue pour les gens qui appellent l'étranger. Mais enfin, pour les travailleurs qui, eux, n'appellent pas leur Golden Boy à Londres, à New York ou à Tokyo pour vendre ou pour acheter des actions, on se rend compte que ceux-là qui appellent leurs parents, qui appellent autour d'eux, eux, les abonnements ont terriblement augmenté. Donc, eux, ils payent plus. La pauvreté s'accroît. Quand vous prenez la privatisation d'EDF, mais comme ça, on peut tout décliner. Privatisation d'EDF décidée par Jospin et par Chirac à Barcelone et à Lisbonne. Lorsque vous prenez ça dans les sommets européens, ce qui a été décidé, on sait que sous cinq années, ça va être bloqué, mais on sait que dans 5 ans, il y a des familles entières qui pourront plus s'éclairer, qui pourront plus se chauffer. Comme ça, on peut le multiplier. Bon. Enfin, oui, c'est le produit d'une volonté politique et sociale au niveau national et au niveau européen.
Alors justement à ce sujet, donc vous êtes quand même bien descendu voir comment fonctionnaient les travailleurs manuels. On est quand même devant des discours qui sont totalement contradictoires. On dit il faut des gens de plus en plus qualifiés, de plus en plus formés. Or vous-même vous avez constaté que aujourd'hui on demande dans le domaine des travailleurs manuels des gens justement qui ne sont pas qualifiés.
Et oui.
Et dans des boulots de gardiennage, dans des boulots. Et vous raccrochez ça, voilà, absolument. Et vous raccrochez ça non seulement aux politiques européennes, mais aussi à la politique éducative française.
Écoutez, mais bien évidemment, parce qu'on n'arrête pas de nous dire le problème scolaire. En fait, il y a un vrai problème de formation à l'école, et ce problème de formation à l'école fait que, en fait, les jeunes ne trouvent plus de travail. Mais c'est une escroquerie intellectuelle, ça. Il est écrit dans les directives européennes. Il y a notamment un document américain qui est remis en place et qui est remis au goût du jour au niveau européen qui dit la chose suivante. Il dit que les boulots qui vont se développer et dont on va avoir besoin, c'est quoi? C'est en gros des caissières. C'est des types qui vont remplir les machines automatiques dans lesquelles Coca-Cola va pouvoir déverser ses bouteilles et donc ça ne demande pas une grande qualification. C'est des pompistes. Bref, il décline toute une série de boulots où la qualification est d'ailleurs un handicap pour eux parce que plus vous êtes qualifié, plus vous pouvez aspirer à un minimum de reconnaissance salariale. Donc ils disent quoi dans ce document? Ils disent qu'il faut une grande masse peu qualifiée et une petite frange très qualifiée pour diriger. Cette petite frange peut correspondre à la privatisation d'ailleurs du système scolaire. Il y aura des écoles d'excellence dans lesquelles des couches sociales pourront se reproduire elles-mêmes. Les gosses des uns iront là et puis n'iront pas se mélanger dans la plèbe. Et puis, il suffit en gros de liquider globalement, doucement, le savoir, l'apprentissage, l'école elle-même, l'éducation, parce qu'on n'a pas besoin d'une grande qualification. C'est-à-dire que la crise à laquelle on assiste, elle non plus, elle tombe pas du ciel. Je pense qu'elle est déterminée, elle est écrite, elle est voulue.
Par rapport à ça, est-ce qu'on peut dire que c'est la traduction d'un projet ultralibéral?
Ah, mais je pense que, moi, si vous voulez, dans le côté ultralibéral, je suis un peu gêné par le terme, je vais vous dire, parce que je pense que les termes ont un sens, et quand on parle d'un projet ultralibéral, je vois bien ce que ça veut dire. C'est le projet d'ultralibéralisation économique, qui est donc le produit de ce qui nous vient des pays anglo-saxons et qui nous tombe dessus. C'est donc les fonds de pension, c'est etc. Bon, d'accord. Moi, je vais vous dire, je pense que c'est le projet tout simplement du capitalisme qui est dans un développement féroce et sauvage et qui liquide tout sur son passage. Quand je dis tout, tenez, je vous parlais par exemple de la question des fonds de pension. Pour moi, il y a deux questions emblématiques que je traite dans le bouquin, entre autres, et qui me semblent importantes. Prenez la question des retraites. On nous dit aujourd'hui, on n'a plus les moyens de payer la retraite aux personnes âgées. Bon, ça veut dire qu'en termes conséquents, il faut faire un choix. C'est soit la canicule, soit les vagues de froid, mais il faut bien les traiter, les personnes âgées. Donc si on peut pas leur payer leur retraite, il faut les laisser mourir. C'est ça qu'on nous dit pas. Mais c'est ça qu'il y a derrière. C'est-à-dire que c'est une espèce de loi de la jungle qui est incroyable, où on nous dit que les gens qui ne vont plus avoir les moyens de vivre, il faut qu'ils meurent. Mais ça, on nous le dit pas. Mais c'est à ça que ça conduit. Mais moi, il y a une question que j'aurais posée. Si on n'a pas les moyens aujourd'hui de payer les retraites, il faut qu'on m'explique comment. Alors que les retraites par répartition ont été mises en place en 45-47, lorsque la France était exsangue, lorsqu'on était à genoux, lorsqu'on se redressait, qu'on sortait d'une deuxième guerre mondiale, d'une destruction incroyable. Le Conseil national de la Résistance met en place le système des retraites avec une série d'autres mesures sociales. À ce moment-là, on peut. On n'a jamais été aussi riche que ce que l'on est aujourd'hui et on ne pourrait plus. Est-ce qu'on ne se dit pas quand même qu'il y a une contradiction? En fait, on ne peut plus. Pourquoi? Parce que pour les intérêts du capital financier, les retraites par répartition, c'est un élément de trop, il faut les liquider. Et si vous permettez, il y a un deuxième exemple que j'aurais donné, qui à mon avis est important, qui est emblématique également. Vous prenez, je pense que la pauvreté d'un côté, c'est la richesse de l'autre. Et ça peut sembler archaïque de dire ça, mais il y a des exemples précis. Prenez les caissières de Carrefour. Moi, j'en ai rencontré un certain nombre pour mon livre. Elles m'ont raconté la façon dont elles ont fait grève pendant des mois pour obtenir 1,50€ de plus pour les tickets restaurants. Et il y en a une, moi, ça m'a terriblement ému parce qu'elle disait, vous comprenez, moi, les sandwichs, je les avale toute l'année à midi. J'aimerais un peu de salade avec. 1,50€, c'est pas énorme. Alors on leur a dit aux caissières, on leur a dit non, 1,5€ on peut pas, parce 1,5€ ça va mettre l'entreprise à plat. Donc elles ont entendu l'argument, elles n'étaient pas contentes, elles n'ont pas eu leur 1,5€. Puis lorsque le patron de Carrefour est parti quelques mois plus tard, avec des résultats qui n'étaient pas faramineux, il est parti avec 38 millions d'euros d'indemnité. Et là c'était possible. Alors je pense que c'est un choix là aussi politique, économique et social, et que c'est ça le débat.
On se retrouve après une petite pause musicale, j'allais dire une page de pub, mais non, vous n'êtes pas sur une radio commerciale.
Vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 dans l'émission Mode d'emploi, l'émission d'AC, c'est Agir ensemble contre le chômage. C'était Murzine, pavillon Kamikaze. Mais je crois que nous avons tout de suite un auditeur en ligne.
Bonsoir, bonsoir à tous.
Bonsoir.
Bonsoir.
Voilà, quelques petites choses qui me viennent à l'idée en vous écoutant. Déjà, moi, une première chose, c'est de savoir à quel niveau salarial vous considérez qu'on est un travailleur pauvre, parce que effectivement vous avez donné quelques exemples il y a un instant, mais on voit bien par exemple que les salaires intermédiaires sont rattrapés par le SMIC par exemple. Beaucoup de salaires actuels, salaires moyens, alors je ne sais pas sur quelle base on peut prendre, est-ce qu'on dépasse 1000 euros ou pas, enfin bref, mais on sait par exemple que le SMIC est, ce n'est pas pour faire une compétition entre les deux, hein, mais le SMIC est revalorisé quasiment, enfin, je ne vais pas dire tous les ans, mais pas loin, et les autres salaires, moi je travaille dans une PME, dans la métallurgie, les augmentations de salaires, on n'en voit jamais quasiment, quoi. Et donc, moi, je voulais un petit peu savoir quelle était votre impression, M. Ouattat, par rapport à ça.
Oui, eh bien, écoutez, je pense que vous avez raison de poser le problème comme ça, parce que, en gros, moi, je vais vous dire comment je vois le problème. Il y a d'une part une norme, histoire qu'on ne nous dise pas, vous racontez n'importe quoi, qui est une norme établie, c'est les fameux 60% du salaire médian. Vous me direz, ça ne veut pas dire grand-chose. Bon, c'est une définition, il faut la donner, elle est un peu technique.
Qui est de...
C'est, en gros, c'est 722 euros par mois. C'est ce qui définit, c'est la barrière qui permet de dire qu'il y a autant de personnes qui touchent au-dessus que ceux qui touchent en dessous. Donc, c'est pas la moyenne, hein, comprenons-nous bien. On est bien d'accord. Bon, donc là, on dit qu'il y a 7 millions de personnes qui sont en dessous de ces 722 euros. Alors, bon, ça définit un critère qui est reconnu au niveau international et européen, qui est un critère de pauvreté. Mais là où vous avez raison, c'est que la situation n'est pas la même où on vit, selon l'endroit où on se trouve. Parce que, vous prenez 1000 euros, par exemple, je vais vous dire, je suis actuellement en train de faire un documentaire pour France 2 sur la question du logement. J'ai rencontré des gens qui sont sous les tentes Médecins du Monde, qui sont entre 1000 et 1300 euros par mois. Parce que c'est évident qu'à Paris, entre 1000 et 1300 euros par mois, on ne peut pas se loger. On vous demande, n'importe quelle agence, vous demande 4 fois en salaire, 3 à 4 fois le montant du loyer. Donc ça veut dire qu'il faut déjà toucher pour avoir un studio à 800 euros. On a tout de suite compris, hein, c'est entre 3 200, 4 000 euros par mois qu'il faut avoir. Donc ça veut dire que c'est impossible pour quelqu'un qui gagne sa vie normalement et qui ne gagne pas beaucoup d'argent de se loger, s'il vit seul. Et par contre, c'est vrai que si vous avez 1 000 euros par mois et que vous vivez dans un village à la campagne avec la famille à côté, eh bien vous gagnez bien. Enfin, vous pouvez vivre à peu près convenablement. Donc ça prend en ligne de compte l'ensemble de ces critères, vous avez raison. Alors, là où c'est très vrai, à mon avis, ce que vous dites, c'est que c'est vrai qu'il y a un abaissement du salaire vers le bas, non parce que le SMIC augmente trop, mais parce que l'échelle mobile des salaires a été cassée et qu'il n'y a pas une augmentation globale des salaires en fonction de ce qu'est l'augmentation du coût de la vie, le passage à l'euro, etc. Donc là, bon, vous avez raison, ça pose ce problème-là.
Et il faut savoir aussi que, c'est mon cas, dans les entreprises, c'est installé comme dans les grandes entreprises, l'actionnariat, c'est-à-dire que la plupart maintenant des petites PME, nous c'est carrément une micro-PME, puisqu'on est quatre ouvriers, plus la direction, on a été racheté par un actionnaire qui a racheté plusieurs entreprises. Ouais. Et donc, effectivement, on est sous le coup, on est sous le coup d'un actionnaire. Et donc, effectivement, pour, mais même pas seulement au niveau salaire, mais au niveau conditions de travail et autres, les avancées se font pas. Et c'est vrai que nous, on passe au travers, on passe à travers du maillage. Juste une anecdote, on a eu l'inspection du travail qui est passée, pas vraiment par hasard, parce que il y avait une histoire de bruit. L'inspection du travail est passée. Eh ben, ils ont recommandé à l'entreprise de faire des mises aux normes des machines. On a des machines qui datent très 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 anciennes. Donc il y a une pénibilité au niveau du travail qui n'est pas prise en compte. Et puis plein d'autres choses. Donc c'est pour dire que on est un peu effectivement des gens qui sont pas vus.
Si vous voulez, pour résumer, à mon avis, monsieur, pour résumer, ça veut dire la chose suivante. Ça veut dire que il y a encore 10 ans, je dis, le chiffre est absurde, vous comprenez bien, c'est pour donner en gros une direction à l'argument. Il y a encore 10 ans, vous étiez extérieur au débat que nous avons là.
Oui.
Je pense qu'avec le temps qui passe, nous allons, pour un certain nombre, être rattrapés par cette pauvreté du travail et rejoindre les bataillons dont on parle, qu'on ne voit pas, mais qui existent et qui se renforcent, qui est le travail pauvre.
Mais ça, c'est pas nouveau, puisque on parlait des États-Unis. Et bon, moi, j'ai lu quelques articles dans le Monde diplomatique où effectivement, ce qu'ils appellent là-bas les working poor, c'est pas nouveau, quoi. Et effectivement, ça ne vient pas des États-Unis, et c'est vrai que ça pose l'histoire du capitalisme. Et effectivement, là-dessus, il y a pas de souci. Mais c'est vrai que là, ça avance à grands pas, quoi.
Ouais.
Ça avance à grands pas. Maintenant, moi, l'autre question que je me pose aussi, est-ce que nous, en tant qu'individus, êtres humains, on n'est pas complices de ça? Voilà aussi une question que moi j'ai envie de me poser, parce que vous parliez de Carrefour, avec effectivement le départ de Monsieur Bernard avec 38 millions d'euros d'indemnité, alors que d'un autre côté, les caissières demandaient un peu plus pour pouvoir vivre. Je veux dire, c'est la révolte, quoi, en théorie. C'est la révolte. Et comment se fait-il qu'aujourd'hui, tous les gens qui sont au chômage, parce qu'on parle de bus qui brûlent et tout ça, mais tous les gens qui sont au chômage, tous les gens qui sont à la précarité, comment se fait-il, effectivement, qu'il n'y ait pas une union de tous ces gens? Comment se fait-il?
C'est ça le problème.
Et nous aussi, je veux dire, moi aussi, je suis dehors. Comment se fait-il qu'on puisse encore accepter ça?
Moi, ce que je crois, c'est qu'il n'y a pas de responsabilité individuelle dans l'affaire, parce que c'est précisément là-dessus que repose le système. Ils cherchent à nous atomiser les uns les autres, à faire en sorte que les uns les autres, on essaie de culpabiliser sur la situation. Moi, je vais vous dire, le vrai problème, c'est quoi? On est dans une période préélectorale. Il va y avoir les présidentielles qui sont une échéance majeure. Je trouve que la vraie question qui se pose, c'est qu'aujourd'hui, ce débat n'existe pas en tant que tel, et comme il n'existe pas en tant que tel, les choses peuvent continuer. C'est-à-dire que la complicité, elle n'est pas individuelle. La complicité, il me semble qu'elle est politique.
Oui.
Et elle est à un niveau plus général, où ceux qui devraient faire porter cette discussion, porter ce débat, au niveau politique, syndical, associatif, etc., de façon plus forte, ne remplissent pas, à mon avis, la fonction qu'ils devraient remplir.
Mais moi, je pense justement que ça pourrait être l'occasion là. Alors là, c'est quand même assez intéressant, et moi, j'y pense beaucoup. Ça peut être l'occasion, effectivement, de profiter un peu de ce brouhaha, je dirais, post-électoral et électoral, pour remettre un peu le.
Bien, moi, c'est pour ça, oui, si vous voulez, c'est la raison pour laquelle j'ai tenté d'aller voir des cas concrets, et non pas d'impulser un débat trop général dans lequel tout le monde, dans les généralités, tombe d'accord, mais essayer de parler concrètement de la situation de ces millions de personnes.
Merci Joël.
Merci beaucoup.
Voilà, mais
merci.
Pour rester à l'antenne, mais pour élargir en fait le débat, il y a aussi une notion qui est intéressante, c'est que finalement la frontière entre le travail rémunéré et les minima sociaux, en quelque sorte, qui aident plus ou moins à vivre ou à ne pas mourir un certain nombre de gens, est en train de progressivement disparaître. Et là, on a un vrai problème, parce que du coup, on a quand même des classes de travailleurs pauvres qui lorgnent vers des supposés avantages acquis, des sans-emploi, des rémistes. Et comme vous le faisiez remarquer dans votre livre à juste titre, il y a un problème d'image d'abord du rémiste, de perception de gens qui ne sont pas dans cette situation et qui responsabilisent effectivement, qui culpabilisent les gens sans emploi. Et il y a tout simplement aussi une chasse au plus faible, finalement.
Ouais, si vous voulez, moi ce que je pense, c'est qu'à travers les cas que j'ai rencontrés, je crois un certain nombre de choses. D'une part, je pense qu'il n'y a pas le problème des travailleurs pauvres à côté des autres travailleurs, pour commencer. Je pense qu'il y a le problème des travailleurs tout court et du travail face au capital. Sinon, la question est insoluble. Parce que il y a tout un discours, vous savez, qui est culpabilisateur, qui est un peu, qui relève du catholicisme social, entre guillemets, qui voudrait que, en gros, l'homme est pas bon, et comme il est pas bon, ceux qui ont un travail seraient responsables de ceux qui n'en ont pas. Et seraient responsables notamment de la situation de ceux qui n'en ont pas. En gros, la défense des avantages acquis des uns, ce serait enfoncer un peu plus les autres. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Moi, je pense que la défense du travail en général, ça doit intégrer la question des travailleurs pauvres et des cas travailleurs surexploités. Pourquoi ? Parce qu'on assiste, il me semble, depuis 20 ans, à une idéologie qui est la suivante. On cherche à gérer socialement la misère du travail plutôt que de répondre aux vrais problèmes du travail et notamment aux vrais problèmes des travailleurs pauvres. Alors la gestion sociale, à mon avis, de la misère, ça n'est pas une politique.
Alors dans votre livre, vous avez des exemples concrets. Nous, ici, on parle plutôt de gestion administrative du chômage puisqu'on pense tous aux ACDIC, à l'ANPE, tout ça. Mais dans votre livre, vous, à un moment, vous abordez le problème des boîtes privées de placement de chômeurs, en donnant quelques cas concrets.
Bah, j'ai des cas concrets, si vous voulez, j'en ai trois par exemple que j'ai rencontrés parce qu'ils étaient désespérés. Il y en a plusieurs, mais il y en a trois sur lesquels je me suis arrêté parce que ces trois-là me semblent à nouveau emblématiques de la situation. Ce sont des personnes qui ont un niveau d'études, pour certains. Ils sont bac plus 3, bac plus 4 pour un. L'autre, elle a juste eu le bac. L'autre, c'est bac plus 2, je crois. Et puis, ils sont dans la vente. Et le problème, c'est qu'ils ont été tous les trois licenciés de boîtes différentes. Ils ne se connaissent pas au point de départ. Et ils tombent donc sur la NPE qui leur dit, on va vous proposer un stage. Alors, ils rentrent dans un stage. Et puis, il se trouve que dans ce stage, on leur garantit à la sortie du stage un boulot. Au départ. Donc, ils sont très surpris. Ils disent, OK. Donc, il y en a un qui était dans des petits boulots qui laissent tout tomber en disant, je vais faire des sacrifices parce que je vais rentrer dans mon stage NPE. Puisqu'à la sortie, j'aurai un boulot, il n'y a pas de problème. Et là, ils se rendent compte, c'est une arnaque intégrale. Parce que, un, leur formation est une formation complètement bidon. C'est-à-dire qu'elle est sous-traitée. La NPE sous-traite à une boîte privée. La boîte privée qui est censée les former, qui donc, manifestement, doit toucher quelques commissions puisque c'est la sous-traitance. Il y a bien un intérêt financier dans l'affaire. Mais, il se trouve que leur formation est absolument nulle. La formatrice les injurie à un moment, elle disparaît à d'autres et tout. Les plus formés du tas sont obligés d'apprendre aux autres. Enfin bref, on est dans l'autogestion de la formation qui donne aucune formation du tout et en fin de compte, aucun boulot du tout. Donc, on a là un exemple. Alors eux, ils vont râler auprès de la NPE, ils cherchent à savoir et ils se rendent compte à ce moment-là que, en gros, on les a mis là parce que ça permet de faire baisser les chiffres. Ils ne sont que l'exemple, l'epsilon comme exemple, de ce qui se passe à grande échelle, c'est-à-dire des stages de formation absolument bidons qui permettent momentanément de faire tomber les chiffres. Ça coûte très cher d'ailleurs, mais peu importe, il n'y a rien à l'arrivée. Et eux, à l'arrivée, ils galèrent toujours autant. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'en les quittant, je suis tombé sur un type, Monsieur Paul. Monsieur Paul, lui, c'est un type qui arrivait là et qui m'a raconté son histoire. Monsieur Paul, lui, son histoire est assez simple. C'est, il avait un boulot, il s'est fait virer de son boulot. Et la NPE l'a renvoyé sur des petites annonces dans le cadre de sa qualification chercher un boulot. Et où il se retrouve ? Attendez, c'est incroyable comme histoire. Il se retrouve dans la boîte où il s'était fait virer. Et il tombe sur un jeune type qui l'accueille, qui n'était pas là à son époque à lui, quelques mois avant. Le jeune type l'accueille, genre jeune cadre et tout, l'auditionne. Alors bon, lui, il dit pas d'où il vient, il dit pas du tout qu'il était là avant. Il laisse venir le truc. Et le jeune type lui dit, écoutez, on va vous proposer ce poste. C'est le poste qu'il avait avant, trois mois avant. Et il dit, d'accord, quelle paye? Et on lui propose, en gros, le tiers de la paye qu'il avait avant. Alors, il dit, mais attendez, j'ai un certain âge, une expérience. Non, non, monsieur, on recrute à ce tarif-là aujourd'hui. Ah bon, pourquoi? Parce que, généralement, ces boulots-là sont externalisés. Si vous voulez être recruté, c'est à ce boulot. Sinon, on externalise. Et vous n'avez pas de travail, on ne vous recrute pas. Il dit, ah bon, bah, appelez-moi votre responsable. Et là, il voit arriver son responsable, un ancien copain à lui, qui est devenu chef et qui le reçoit. Et il lui dit, mais attends, mais c'est quoi cette histoire? Oui, mais tu comprends, il est très gêné. Alors, il parle d'externalisation, ça se termine en lui disant, bah, écoute, j'espère que ton boulot à toi ça sera externalisé un jour, il se tire et ça se termine comme ça. Donc, ça montre bien la logique dans laquelle on est.
Et tout à fait. Christophe?
Alors, moi, par rapport à ça, je voulais revenir sur les exemples, et donc réduction de coûts. Mais il y a toujours une chose qui m'étonne un peu. On en avait parlé hors antenne. C'est le cas extraordinaire des travailleurs handicapés. Parce que il y a la loi qui donne une obligation d'emploi. Et moi-même, je suis reconnu qu'autorep, même si c'est léger. Et je sais, pour avoir étudié le sujet, si vous voulez, que les avantages fiscaux et financiers pour engager un travailleur handicapé sont faramineux. Ouais. C'est-à-dire que c'est le SMIC sans charge pendant des années. Et alors, dans la logique, on dirait, bah oui, mais nous, les patrons, le MEDEF, on a trop de charges, ça nous coûte très cher. Et résultat des courses, on a aujourd'hui que 37% des travailleurs handicapés qui sont reconnus comme tels, qui ont un boulot. Alors moi, par rapport à ça, est-ce que vous avez quelques exemples dans le livre ou sur ce qui se passe globalement, quelques timides tentatives d'explication?
Alors très honnêtement, moi je n'ai pas traité la question de travail handicapé, de la cotorep en tant que telle. Ce que je traite par contre, c'est effectivement le système de la cotorep, mais à côté des autres systèmes, hein, qui permettent, comme vous le dites vous-même, de trouver à chaque fois des niches de rentabilité pour les patrons et de sous-employer, de sous-payer des gens qu'ils emploient et qui font leur boulot. Alors, mais ça c'est vrai, mais et ça me semble important parce que c'est toute cette série de contrats aux noms étranges qui ont fleuri pendant des années et des années, les CIE, les CEC, les etc., etc. Alors, bon, maintenant je vais être honnête, sur la question précise, spécifique d'être du travail handicapé, je ne me suis pas attardé.
Alors, il y a aussi il y a quand même une question que vous abordez dans votre livre, c'est la question de l'instabilité des gens qui, aujourd'hui, sont en situation de fragilité ou qui sont dans des boulots précaires ou effectivement qui sont moins SDF. Alors, on ne sait pas comment aborder cette question parce que souvent, les travailleurs sociaux abordent cette question de façon psychologisante, c'est-à-dire disent qu'il y a des raisons familiales. Mais vous donnez un certain nombre d'exemples où finalement, les gens que vous rencontrez sont des gens qui ont enchaîné 10 boulots d'affilée. Je pense au cas du pâtissier dont vous parlez, qui est quelqu'un d'ultra qualifié, qui a fait toute la... mais qui n'ont jamais réussi à un moment à se stabiliser. Est-ce que vous avez un peu abordé la question avec eux, ou est-ce que ils vous semblent vraiment victimes à 100% du système?
Je pense qu'il y a les deux aspects. C'est-à-dire, je crois qu'il y a toujours une part de... je ne vais pas dire de responsabilité, mais de données personnelles, individuelles, qui ne sont jamais les mêmes, même si ce sont toujours les grands traits. Hein. Souvent, c'est une rupture, c'est un décès, c'est une perte d'emploi, c'est une situation familiale avec des parents où ça se passe pas bien. Enfin bref, il y a toujours des grandes catégories, des grands traits qui touchent individuellement les individus dont nous parlons et qui les mettent dans cette situation de fragilisation. Et puis alors, ça se rajoute à ça, alors là, c'est terrible, la question sociale. C'est-à-dire les boulots où, effectivement, ils ont le sentiment, qui n'est pas seulement un sentiment, mais qui devient une réalité. Petit à petit, plus ils avancent dans la vie professionnelle, plus ils se rendent compte qu'il y a une espèce d'exploitation qui pèse sur eux et que exploitation signifie précarité, précarité signifie sous-paye et signifie sous-emploi. Et donc, à partir de là, eh bien, tout se cumule, tout s'enchaîne et ça devient très difficile. Et c'est vrai que les travailleurs sociaux essaient, tentent de prendre le problème de la façon, sous un angle psychologique, mais il faut bien qu'ils le prennent d'une façon ou d'une autre. Donc, ils le prennent de cette façon-là parce que ils sont en face d'un individu où, à mon avis, c'est la façon pour eux qui est la plus directe pour tenter d'accrocher, mais à mon avis, qui est aussi la plus fragile. Parce que si la question sociale n'est pas réglée en tant que telle, et si, moi, par exemple, le pâtissier dont vous parlez, c'est un type qui a fait 25 boulots. Alors, il est tombé d'une pâtisserie, la première pâtisserie qu'il fait, ça se passe très bien. Il fait le pain, il a des recettes et tout, ça se passe très très bien. Alors, son patron lui dit, écoute, tu vas me faire pour les samedis, pour les mariages, tu vas me faire des pièces montées, je te paye au black, il n'y a pas de problème, et on le déclare pas. Alors, lui, ça se passe très bien, hein, il fait ses pièces montées et tout, c'est une vie idyllique. Un jour, le patron passe la main à son fils. Et le fils, sans l'avertir, sans le prévenir, passe de 500 francs, on est en francs à l'époque, la pièce montée au black, pour un mariage de 60 personnes, à 250 francs. Et là, l'autre, il lui dit, mais attends, c'est pas le tarif qu'il y avait avec ton père. Il dit, ah ouais, mais c'est plus mon père, maintenant c'est moi. Et là, il se trouve que mon pâtissier, si vous voulez, il a un caractère bien trempé, et il insiste, il dit, non, c'était pas comme avec ton père. Non, mais c'est pas mon père, c'est moi. Il prend la pièce montée, il la fout dans la tronche, et il se tire, et il s'en va. Et à partir de là, vous avez une histoire folle. C'est-à-dire que le type, pour le respect de son travail, mais c'est légitime, faut bien comprendre, pour le respect de la parole donnée, pour sa dignité, les boulots qu'il pourrait avoir, il ne va pas les avoir, ça va pas bien se passer, parce que chaque fois, il tombe dans un système de surexploitation, de précarité accrue, où il pourrait à la limite manœuvrer avec tout ça, hein, celui-là. Il pourrait s'y faire, il pourrait tirer sur la corde. Ben non, c'est pas comme ça. Lui, il aime les règles. Il aime que la loi soit la loi et qu'elle soit respectée. Et comme elle ne l'est pas, eh bien, à chaque fois, ça se passe mal. Et la dernière fois que je l'ai rencontré, eh bien, c'était en sortant d'un foyer de jour où il allait faire, chercher un petit boulot, peut-être, vers Aubervilliers. Il savait pas d'ailleurs si ça allait marcher, si ça allait donner.
Alors, par ce biais, vous abordez un autre problème qui est celui de la dérégulation ou de la déréglementation et qui touche toutes ces professions-là, en fait, hein, de pâtissier, de lave-linge, enfin, toutes les professions qui sont un peu qualifiées.
Oui, ou qualifiées ou pas qualifiées, si vous voulez, parce que, tenez, je vais vous donner un exemple, c'est Fatih. Fatih, c'était ce qu'on appelle, vous savez, les techniciens de surface. C'est pour pas dire les gens qui balayent par terre la crasse des autres. Hein. Alors, Fatih, elle bossait dans les grandes chaînes d'hôtels, puis un jour, Fatih, elle a aucune expérience, ni syndicale, ni politique, ni de quoi que ce soit. Et un jour, ils se rendent compte, ils sont 35, là, sur leur site, que l'hôtel d'à côté ils touchent 1 € de plus par chambre, ou 1,5 €, je ne sais plus exactement, peu importe, ils touchent un peu plus par chambre. Donc les 33, ils disent, ils vont voir leur patron, ils disent, c'est le même groupe en plus. Ils disent, mais attends, à côté, ils font le même boulot que nous, les chambres font la même taille, ils touchent un peu plus, il faudrait nous, s'il vous plaît, nous aussi. Et le patron leur dit, pas question. Et là-dessus, ça va durer 2 ans. Et c'est là que vous voyez comment, je trouvais ça extraordinaire, moi, comment le combat, la lutte, l'organisation, la solidarité, la détermination permet à des gens qui n'ont pas d'expérience de faire un chemin 10 fois plus vite que ce que peuvent faire les autres en étudiant avec la connaissance. Parce que Fatih, d'une organisation à l'autre, d'une réunion à l'autre, elle va devenir déléguée du personnel, elle va défendre ses copines, ils vont gagner, ils vont lui faire la peau à Fatih quand même. Ils vont la mettre dehors, elle va négocier, elle ne pourra plus rester. Elle va partir, et ceci dit, au bout d'un an et demi, Fatih, vous l'écoutez, c'est une vraie expérience, c'est une vraie organisatrice, quoi. C'est quelque chose qui a vécu et qui est fort.
Voilà. Alors, pour les auditeurs qui ne se souviennent pas, je crois qu'on avait reçu Fatih, si vous avez gardé le même nom, qui effectivement était la leader syndicale et dont le combat est exemplaire. Donc, on va aussi... passer à une... enfin, peut-être pour finir, hein, vous avez quand même fait une descente au MEDEF, parce qu'il ne fallait pas déconner, voir un peu où se nichait l'argent, qui manque, qui fait défaut à tant de gens.
Bah, si vous voulez, moi, je reprends une séquence que j'avais tournée pour un documentaire qui s'appelait « Dans le secret du patronat », où je me retrouve dans une assemblée du MEDEF où il y a les 20 plus gros patrons étrangers qui sont installés en France. Et donc, ils sont dans une salle et tout. Alors, toute la discussion est feutrée, elle est polie, elle se passe très bien. Et moi, tout d'un coup, je demande la parole en tant que journaliste et je leur pose une question. Je leur dis, voilà, vous prenez la modération salariale. Première question, j'aimerais savoir combien vous touchez les uns les autres. Alors là, je vous annonce, ça a fait un froid, parce que je crois qu'on m'a trouvé une grossièreté incroyable en posant cette question-là. Ça se pose pas, ce genre de questions. Il y en a quelques-uns qui ont levé la main en disant, j'accepte de répondre, mais plus tard. Bon, très bien. Deuxième question que j'avais à leur poser, c'était de leur dire, est-ce que vous pourriez me dire, dans les 2 dernières années, si vous vous êtes augmenté, de combien ? Et comparativement, de combien vous avez augmenté vos employeurs ? Ça, je le raconte dans le bouquin. Alors, si vous voulez, il y a les chiffres. Je ne les ai plus en mémoire parce que je veux dire n'importe quoi, mais vous imaginez, quoi. Je veux dire, les augmentations ne sont pas exactement les mêmes. Ce qui est marrant, d'ailleurs, c'est qu'ils ont des arguments à ça. Il faut bien comprendre, moi, je pense qu'ils y croient à moitié, mais à moitié, ils y croient quand même. Leurs arguments, c'est de dire, nous, on prend des risques. Donc, comme on prend des risques et on crée des richesses en prenant des risques, c'est normal qu'on soit bien rémunéré. Mais moi, je pense qu'il y a un déplacement des choses, là. Parce que, si vous voulez, ce qui crée la richesse, moi, je pense que les patrons, un patron qui fait bien son boulot, c'est important, hein. C'est pas ça, moi, je suis pas en train de dire, les patrons comme ça, c'est pas ça que je dis. Mais je dis que ce qui crée les richesses, le patron sans employé, sans salarié, sans ouvrier, il peut avoir les meilleures idées qu'il veut, il créera rien du tout. Je pense que la force de travail, elle est fondamentale, elle doit être connue à tous les niveaux. Et qu'il n'est pas possible, dans un pays comme le nôtre, d'avoir des écarts tels qu'ils sont, d'avoir nos caissières qui réclament 1,50 € à qui on le refuse, et le patron qui part avec 38 millions d'euros d'indemnité. Si on accepte ça, on va vers la pire des déconvenues. D'ailleurs, ce que je voudrais dire, c'est que ceux qui bénéficient de ce système, qui ne veulent pas s'en rendre compte, à mon avis, ils font une profonde erreur parce qu'ils se mettent en danger eux-mêmes. Les bénéfices qu'ils tirent aujourd'hui du système, c'est la préparation d'une explosion demain qui va les remettre en cause d'une façon que personne ne peut aujourd'hui prévoir et ne peut concevoir. Et le bon déroulement et le bon fonctionnement démocratique voudraient, à mon avis, que ce débat ait lieu, qu'il soit clairement posé, et qu'au lieu de discuter dans la préparation des présidentielles, de savoir quel est l'artiste qui concurrence tel footballeur pour savoir qui soutient qui et qui ne soutient pas qui, il vaudrait mieux qu'on discute des vrais problèmes, du travail, des salaires, de la précarité et de la façon d'en sortir.
Oui, mais aujourd'hui, il y a une contradiction, c'est que le carcan des lois européennes institue cette logique. C'est-à-dire que moi, j'ai envie de rebondir sur la notion de globalisation de l'économie, c'est-à-dire que l'économie est globalisée. Et là, on est soit dans l'utopie, soit dans des choses...
On n'est pas dans l'utopie du tout, parce que regardez, moi, à mon avis, ce qui est utopique, c'est ceux qui refusent cette réalité, parce qu'il y a des réalités très précises. On a eu, par exemple, le 29 mai, un référendum. Vous savez, je vais vous redonner un cas précis que j'ai rencontré dans les foyers. On nous dit les gens, ils pensent pas, et en fait, il y a les grands de ce monde qui penseraient, et ceux-là ne pensent pas. Le 29 mai, lors du référendum, moi, je suis 6 mois avant, dans un foyer avec un type qui s'appelle Jean. C'est le leader du foyer, le leader de l'étage. Jean lit Libération sur son boulot, sur son lit, avant de partir le lendemain matin au boulot. Il est jardinier de la ville de Paris. Jean, il vit dans un foyer, hein. Eh bien, Jean, il me dit, 6 mois avant, tu vas voir ce coup-ci, le vote, il va passer au non. Et moi, je regarde Jean, je me dis, mais il cingle ce type. Tous les sondages donnent 65% pour le oui et tout. Et il me rajoute et il me dit, parce qu'il y a un truc qu'ils n'ont pas compris, ce coup-ci, on n'en peut plus. Et ce coup-ci, nous, on va y aller. Et ça va être non. Et ça a été non à 55%. Alors, je vais vous dire, vous avez raison, il y a les lois européennes, il y a tout ça. Mais il faut savoir ce qu'on veut. Soit on décide que la démocratie doit l'emporter, la démocratie, ça a été non. Ça a été de dire, cette Europe-là, on n'en veut pas. On ne veut pas cette Europe qui décide d'anéantir le travail au profit du capital. À partir de là, il faut rompre avec. Il faut dire Maastricht, par exemple, les 3%, on revient dessus. On sort du traité de Maastricht. Qu'est-ce qui interdit de le faire? Qu'est-ce qui va se passer si on le fait? Eh bien, on décide d'assumer notre souveraineté. On est pour la souveraineté alimentaire, comme dit José Bové. Moi, je pense qu'il a raison. Il faut que les peuples puissent se nourrir eux-mêmes, eh bien, il faut être pour notre souveraineté démocratique. On a décidé le 29 mai, il faut le respecter, sauver nos services publics, il faut poser le travail tel qu'on décide de le poser en fonction de notre modèle social, et il faut défendre nos salaires contre la précarité tels qu'ils doivent être défendus.
Merci Jacques Cotta. Donc c'était, je rappelle votre le titre de votre livre, c'est 7 millions de travailleurs pauvres, la face cachée des temps modernes, c'est chez Fayard. Je vous le recommande puisque vous abordez beaucoup de thèmes dont on n'a pas parlé, comme la désindustrialisation en Picardie, le travail des saisonniers et des exemples à travers des portraits qui sont vraiment éclairants et qui nous donnent une petite idée de la misère sociale de notre France contemporaine. Un dernier clin d'œil pour féliciter Alstom, ou plutôt Bombardier, hein, en tout cas, ou la SNCF, je ne sais pas trop qui a pris le risque en prenant un avionneur canadien, un ferrailleur, c'est ça?
Un ferrailleur,
voilà, bon, pour les constructions de la SNCF, de voir une entreprise française délocalisée et désindustrialisée.
Alors, sur ce point, je précise un élément, c'est que Bombardier, notamment, il y a eu un certain nombre d'affaires de corruption au niveau de Caen, au niveau du tramway de Caen, qui sont toujours en situation de jugement. Il faut savoir qu'ils ont vendu un nouveau système qui a eu des dizaines et des dizaines de pannes à répétition au niveau de la gestion du transport du tramway. Donc, c'est pas les meilleurs. Et Alstom avait vraiment la technologie la plus performante logiquement, mais ils avaient un meilleur rapport qualité-prix. Alors maintenant, il faut savoir ce qu'on veut.
Merci. Mode d'emploi se termine. Vous pouvez réécouter l'émission au www.mode-d-emploi.net, www.mode-d-emploi.net. C'était Claude à la technique, évidemment, qu'on n'entend jamais, mais sans qui les émissions n'auraient pas lieu. Merci.
Bonsoir
bien.
À
la semaine prochaine.